Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1, nous sommes le vendredi 22 mars, il est 4h58 et avec mes complices du petit jour, Eva Rock et Céline Dacosta, on est hyper heureux de vous retrouver.
Faut le dire vite.
Bah non. Ce que veut dire Céline avec son franc-parler naturel, quoique encore exacerbé par cette manie qu'elle a de mettre du Porto dans son café, c'est que 4h58 c'est tout de même extrêmement tôt pour être hyper heureux de quoi que ce soit. C'est d'ailleurs aujourd'hui une journée nationale qui nous tient à cœur et certainement à vous aussi qui nous écoutez puisque vous êtes là, la journée nationale du sommeil. Ah, le sommeil, quelle arlésienne pour nous. Combien de temps qu'on n'a pas fait une nuit de 8 heures? Mais que voulez-vous, c'est ça le showbiz. On essaye de se coucher tôt, mais il y a toujours un pot, un cocktail dînatoire, une soirée déguisée qui finit en grand n'importe quoi.
Il arrive, David Doucan. Le panda.
Pas s'étonner qu'on soit dans un sale état le matin. Je ne vise personne, mais bonjour Eva Rock.
Non, je pense qu'à 9h je dormais hier soir. Tellement j'étais épuisée. Ah oui.
Bah en même temps, c'est normal, Eva, vu que vous levez à 2h30
du
matin,
oui,
il vaut mieux se coucher
journées.
À 21h.
Ouais,
ouais. Quelle question avez-vous choisi de poser à nos auditeurs ce matin?
Je l'assume pas du tout, hein, je vous préviens tout de suite. Alors,
dites-la bien distinctement. Voilà. Surtout.
En 1923 naissait le mime Marceau.
Oui. Okay.
Quel est votre meilleur mime?
Ah mais c'est extrêmement radiophonique en plus comme
c'est
jeu.
C'est pour ça.
Ah
c'est
là,
une
oui.
question de.
On va vers un carton aujourd'hui.
C'est une question de Sébastien Bordeneuve.
Voilà, vous nous envoyez
notre
vos meilleurs mimes.
Eh bien, vous savez quoi? On a déjà des réponses.
Je suis curieux de les entendre. À vos côtés, la science et plus précisément les neurosciences seront peut-être un jour en mesure d'expliquer pourquoi une franco-portugaise bascule soudain sur l'accent marseillais lorsqu'elle est en joie.
Enchaînez-nous aussi avec une franche rigolade là, hein.
On attend la police, Béloubé, on va se marrer.
Céline, mystérieuse Céline Dacosta, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
C'est un grand soleil qui va briller sur le pays aujourd'hui, Céline.
Mais oui.
Moi, je ne sais pas faire l'accent marseillais. Moi, panisse au Noël, je ne sais pas faire l'accent marseillais. C'est vrai que j'ai un peu perdu. Il faut que j'exerce.
Ah oui, il faut
c'est
vrai. Pratiquer.
Donc, très belle journée, Céline.
Très belle journée, mise à part sur les côtes de la Manche où on aura un peu de nuages quand même.
Un peu de nuages quand même. Bon, Céline, vous écoutez. Le 5-7 qui dit oui à l'info, non à la déprime et qui surtout accueille à bras ouverts tous ces jeunes qui affluent en masse depuis Energy et Fun Radio. Des jeunes à qui on dit Céline.
C'est maintenant, c'est now.
C'est now. Debout les copains, c'est parti.
Nous sommes le vendredi 22 mars, merci d'avoir choisi Europe 1. Et très bon réveil à tous, il est 5h. 5h-7h, Mathieu Noël.
Le premier journal de ce vendredi 22 mars est avec vous, Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les titres.
Le Brexit est reporté et c'est l'UE qui prend les commandes de l'agenda. Bruxelles propose 2 dates à Londres pour une sortie du Royaume-Uni, le 12 avril ou le 22 mai, sous condition, les explications d'Isabelle Horry dès le début du journal. Nous retournerons à Trèbes, la ville audoise toujours marquée par l'attentat dans un super-U. C'était il y a un an, presque jour pour jour. Et puis les Bleus du foot doivent la jouer modeste. Ce soir, en Moldavie, les champions du monde ont la campagne des qualifications pour l'euro l'année prochaine. L'Union européenne accepte donc un court report de la date butoir du Brexit. Ce devait être le 29 mars. 2 solutions proposées par Bruxelles à l'issue hier de longues heures de discussion. Une sortie le 12 avril si le Parlement britannique refuse une 3e fois l'accord négocié par la Première ministre Theresa May. Ou une sortie le 22 mai si au contraire les parlementaires finissent par l'accepter. Le texte doit leur être à nouveau soumis la semaine prochaine. Isabelle Horry.
C'est à peu près la seule certitude à l'issue de ce sommet. Dans une semaine, le Royaume-Uni ne sortira pas de l'Union européenne. Qu'en sortira-t-il finalement? Eh bien là, ça devient tout de suite plus compliqué. Hier, les 27 ont refusé la demande de Theresa May qui voulait un délai de 3 mois. À la place, ils lui ont concocté une sorte de parcours fléché à choix multiples. Selon ce qui se passera à Londres dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, le Brexit aura lieu le 12 avril, le 22 mai ou peut-être beaucoup plus tard. En fait, les Européens ont pris le contrôle de l'agenda. Ils veulent que les Britanniques assument les conséquences de leur choix. Sur le continent, on n'a pas envie de porter le chapeau si ça se termine mal. Certains ont donc voulu donner encore une chance à Theresa May. Ils espèrent qu'elle arrivera à convaincre son Parlement qu'il faut trouver une porte de sortie. Côté français, on n'y croit pas vraiment, mais dans l'entourage du président, on explique que l'idée d'un report, c'est que dans 10 ans, quand on regardera cette période, les Européens pourront se dire qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Bruxelles, Isabelle Horry, Europe 1.
Et le Brexit, selon une étude source de tracas pour la population britannique, 4 sur 10 se disent psychologiquement affectés, sentiment d'impuissance, de colère, d'inquiétude, voire de stress de haut niveau.
Europe 1, il est 5h02.
Le nouveau préfet de police de Paris doit présenter ce matin à Christophe Castaner le dispositif de maintien de l'ordre pour demain, 19e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Hier soir, le ministre de l'Intérieur a reçu les syndicats de policiers. Il a demandé la fermeté et a assuré que les forces de l'ordre bénéficieraient demain d'une plus grande autonomie en intervention. Climat glacial entre l'Élysée et le Sénat, après qu'hier, la Chambre haute a décidé de transmettre à la justice, dans le cadre de l'affaire Benalla, le cas de trois proches d'Emmanuel Macron. La majorité fâchée, Édouard Philippe a boycotté la traditionnelle séance des questions du Sénat au gouvernement. Une première pour un Premier ministre depuis 1998.
Les terribles attentats de Carcassonne et Trèbes, c'était il y a un an, quasiment jour pour jour.
Le 23 mars 2018, un terroriste pénétrait dans le Super U de Trèbes après avoir tiré sur deux personnes à Carcassonne et faisait quatre victimes, dont le colonel Arnaud Beltram. Demain, la ville audoise va commémorer ce triste anniversaire. Et ce matin, témoignage de Christian Guibert, présent dans le supermarché ce jour-là. Cet ancien policier a vite compris ce qui se passait. Il a prévenu les gendarmes, mais auparavant, il a sauvé la vie de plusieurs personnes.
J'ai vu une porte, donc j'ai ouvert cette porte, qui était une chambre froide, quoi, un frigo. Je les ai mis là, et puis j'ai dit, vous fermez, surtout vous ouvrez à personne. Moi, je suis retourné vers le gars. J'essaie de m'approcher le plus possible, pour essayer de glaner le plus de détails possible. Et à un moment donné, il m'a vu. Il est venu vers moi en courant, et il me braquait avec son arme, et il me disait, viens ici, viens ici. Ce qui m'a marqué, c'est son regard. Très très froid, haineux, déterminé. Donc j'ai pris mes jambes à mon cou. Hein. Et par la suite, j'ai appris que son arme s'est enrayée. Sinon, je pense que oui, il aurait tiré, oui. Sur le coup, on ne s'en rend pas compte. Le mot d'attentat ne vient pas. Après, oui. C'est pas facile tous les jours. Je suis toujours suivi. C'est bien ancré à moi, en plus, vous voyez. Je me suis fait inscrire sur le bras, sur mon bras. C'est la date de l'attentat avec ma bonne étoile. Parce que je pense que oui, j'ai eu une bonne étoile ce jour-là. C'est une thérapie. De toute façon, on ne peut pas l'oublier, c'est dans la mémoire. C'est dans la tête. Bon, voilà, maintenant, c'est là, je sais que c'est là, je ne peux pas l'oublier. Ça fait partie de moi, oui.
Témoignage recueilli par Benjamin Peter pour Europe 1. Les tests osseux pour vérifier si un migrant est mineur ou majeur et donc s'il a droit à la protection de l'État ont été validés par le Conseil constitutionnel. Déception de plusieurs associations pour qui ces tests ne sont pas fiables. Les sages ont toutefois admis une possible marge d'erreur significative. Au chapitre santé, les députés ont autorisé cette nuit les pharmaciens à délivrer sous certaines conditions des médicaments sans ordonnance pour des pathologies bénignes comme les cystites ou certaines angines. Et puis, l'association de consommateurs CLCV alerte sur les poissons panés, trop d'additifs, d'arômes et de sucres ajoutés avec parfois très peu de poissons.
Une compagnie aérienne indonésienne annule une commande de Boeing.
La compagnie Garuda annonce renoncer à acheter 49 Boeing 737 Max récemment impliqués dans deux crashs. L'avionneur annonce par ailleurs l'installation sur ses modèles d'un signal lumineux censé prévenir d'un dysfonctionnement du système anti-décrochage mis en cause dans les derniers accidents. Et puis une semaine tout juste après l'attaque terroriste contre deux mosquées de Christchurch, 50 victimes, un hommage national est rendu aujourd'hui en Nouvelle-Zélande. L'appel à la prière a été diffusé dans tout le pays et deux minutes de silence ont été observées.
On passe au journal des sports, Jérôme. À la une, les champions du monde doivent jouer l'humilité.
L'humilité et la prudence, parce que c'est en Moldavie, 170e nation du foot mondial, que les Bleus attaquent ce soir la campagne de qualification pour le championnat d'Europe l'année prochaine. Stade Zimbru, 10 000 spectateurs, ça paraît presque pittoresque, alors pas de blague. Les Moldaves n'ont sur le papier que peu d'arguments pour contrarier les Français. Voilà pourquoi il ne faut pas tomber dans le piège du complexe de supériorité. Didier Deschamps a prévenu ses troupes.
C'est une évidence, et c'est pas fanfaronner de dire ça, les joueurs sont habitués à un contexte différent de par les stades et les clubs où ils jouent, mais ils savent très bien qu'au programme, il y a la Moldavie, et beaucoup de respect par rapport, même si le stade est plus petit, il sera plein, il y aura un public qui sera derrière eux, donc ça ne doit pas amener à de la déconcentration, bien au contraire.
Moldavie-France, coup d'envoi 20h45. Les qualifications pour l'Euro qui ont commencé dès hier soir. On retiendra le succès 3-1 des Belges face aux Russes, doublé d'Eden Hazard côté belge, ou encore la victoire 4-0 des Pays-Bas sur la Biélorussie et les Croates qui ont battu 2-1 l'Azerbaïdjan.
Le foot féminin, Jérôme, et c'est mal engagé pour les Parisiennes en Ligue des Champions.
Oui, défaite 2-0 du PSG à Londres face à Chelsea en quart de finale. Allez, match retour mercredi prochain.
On termine, Jérôme, avec le chiffre du jour.
15, l'âge de la prodige américaine Corrie Gauff. Elle joue au tennis et à seulement 15 ans et une semaine, elle a remporté hier soir son premier match sur le circuit WTA face à une compatriote de 17 ans. C'était au premier tour du tournoi de Miami, tournoi dont par ailleurs côté français, Caroline Garcia, Alizé Cornet et Jérémy Chardy se sont qualifiés pour le deuxième tour. C'est fini en revanche pour Kristina Mladenovic, Benoît Paire et Pierre Hugerbert dès le premier tour.
Merci beaucoup Jérôme Lacroix, qui lui aussi à 15 ans était un grand espoir du sport. Vous étiez à Albi, vous jouiez au foot, n'est-ce pas?
Oui, à Saint-Juéry précisément.
Vous étiez quel poste exactement?
Alors moi j'ai d'abord commencé ailier, attaquant numéro 11, et après j'ai reculé, j'étais numéro 6 quoi.
Vous n'avez jamais fait de rugby?
Non, j'ai jamais fait.
Malgré une carrière qui est pourtant le prédisposé à faire du rugby. Je tiens à signaler à toutes fins utiles que j'ai fini ma 5e saison de FIFA hier soir.
Alors,
par Ligue des Champions.
Bravo.
Magnifique. Et je viens de signer à Barcelone. Ah non, j'ai pas perdu, j'ai gagné la finale de Ligue des Champions. Évidemment, je tiens à le signaler. Avis à l'Olympique de Marseille qui doit faire au moins aussi bien l'année prochaine.
Vous êtes allé à la salle de sport sinon? Pas.
Bah évidemment, mais ça n'intéresse pas les gens.
D'accord.
Alors que FIFA, ça d'accord, les passionne. J'ai beaucoup de retours là-dessus. Merci beaucoup.
Il est 5h08, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec la météo et le pressing, notre revue de presse en mode zapping. Et puis il fallait oser, vous exclamerez-vous lorsque vous aurez entendu ce matin le témoignage de Julie, ex-chargée de développement culturel qui a décidé de tout plaquer pour ouvrir un salon de thé. Fallait oser, la rubrique de celles et ceux qui ont eu le culot de changer de vie.
Il est 5h09, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec un point météo. Céline, encore une très belle journée.
Oui, c'est vrai, une journée sous le soleil pour quasiment tout le monde. Là où ça va rester un petit peu plus nuageux, c'est sur les côtes de la Manche, hein, je vous le disais tout à l'heure, avec une grisaille parfois tenace. Attention aux brouillards qui sont nombreux ce matin sur les régions nord de la Loire. Après dissipation de ces brumes, de ces brouillards et partout ailleurs, c'est le soleil qui brillera largement avec des températures très douces. Hein. On aura 15 degrés à Cherbourg, c'est la plus basse cet après-midi, 17 à Lille, 18 degrés à Paris, 20 degrés à Lyon et Cognac, 21 à Limoges, Grenoble, Montpellier, 22 à Marseille et même 23 du côté de Nîmes.
Merci Céline. Eva Rock.
Alors la question du jour que je ne revendique absolument pas puisque c'est Sébastien Bordonnave, notre producteur, qui me l'a soufflé. En 1923 naissait le mime Marceau et à cette occasion il voulait savoir quel était votre meilleur mime. Le geste que vous mimez le mieux. Oh. Eh bien, Sébastien nous a répondu, c'est pas idiot. À travers Twitter, je mime d'une certaine manière mes discussions avec vous. Hein. C'est pas bête, c'est aussi surréaliste que
j'ai
la question.
J'ai pas
compris. C'est pas grave, rendez-vous. Et Jean-Sébastien.
Peut-être un autre témoignage.
Ouais, Jean-Sébastien,
plus clair.
Il sait très bien faire le mime du mur invisible. Vous voyez? Le mime invisible.
Ça, je le vois. Voilà. Et là, Céline d'Acosta est en train de le faire. Quel dommage que nous ne soyons pas filmés à 5h10.
Il nous a envoyé une vidéo de David Bowie en train de le faire et c'est très très réussi.
Ah, j'ai cru David Ducamp, ça aurait été intéressant aussi.
C'était dans sa période de Ziggy Stardust, je vous la recommande, c'est sur Twitter évidemment. Vous continuez à réagir avec le hashtag Europe 1.
Merci beaucoup Eva.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le carrefour de l'info, du rire et des grandes résolutions. Chaque matin dans Fallait oser, on vous fait découvrir quelqu'un qui a eu le courage de se remettre en cause, de sortir de sa zone de confort pour vivre ses rêves. Ce matin, je vous présente Julie.
Entourée de danseurs en barésie.
Non, même pas celle-là, pas la Julie d'Europe 1. Julie Michardière. Julie Petoello Michardière, exactement, soyons précis. Elle habite à Niort, dans les Deux-Sèvres, et elle a 28 ans. Julie était chargée de développement culturel dans la fonction publique, mais humainement, elle s'y retrouvait pas. Il y a 2 ans, elle a concrétisé un rêve d'enfant, ouvrir un salon de thé.
Fallait oser.
C'est un projet que j'ai toujours eu en moi depuis que je suis gamine. Je dis à tout le monde que je monterai un salon de thé un jour. Et d'ailleurs, quand j'ai annoncé à mes parents que j'allais me reconvertir, tout de suite, ils m'ont dit « Ah, tu vas ouvrir un salon de thé ». Donc c'était vraiment une surprise pour personne. Mes deux valeurs clés, c'est proximité et convivialité. Donc c'est vraiment autour de ça que j'ai construit mon projet. Et c'est pour ça que je souhaite avoir un salon de thé. J'ai envie que ce soit un petit endroit dédié à la gourmandise, au bien-être, où les gens se sentent bien, où ils oublient leurs soucis. Enfin, j'aime bien l'idée d'initier un lieu comme ça.
Alors Eva, tenir un salon de thé, c'est une chose, mais cuisiner en est une autre. Julie a donc passé son CAP pâtisserie il y a 6 mois.
Et alors, elle a eu du mal à trouver un local, mais c'est chose faite. Le salon devrait ouvrir en avril et Julie, elle est très impatiente, on la comprend. Elle a hâte de retrouver un vrai contact avec les gens et d'exercer ce métier qu'elle trouve déjà enrichissant.
Je me suis jamais sentie aussi épanouie que maintenant dans ma vie d'avant. Il y a des moments où je ressens vraiment une joie profonde, enfin, je la sens dans mon corps, entre guillemets. Je me sens là où je dois être. Moi, j'ai l'impression que je me révèle un petit peu à moi-même, que j'ai pris beaucoup d'assurance, que je m'épanouis pas seulement d'un point de vue du bonheur, mais aussi professionnellement. J'ai l'impression d'avoir déjà énormément appris depuis que j'ai commencé à monter ce projet. Je fais des choses dont je me pensais pas capable.
Si vous êtes du côté de Niort, vous pourrez donc aller vous arrêter à L'Empoté, c'est le nom de l'établissement de Julie.
Vous avez vu le jeu de mots, Empoté?
Ah, je l'ai vu, Eva, écrit. Vous savez que je suis friand de jeux de mots. Ah oui, vous voulez que je dise?
Bah oui, parce
Les gens
sinon...
peuvent le deviner, je pense. L'Empoté, avec T-H-E accent.
Eh oui. Puis si vous aussi, vous avez changé de métier, vous voulez nous faire partager votre expérience, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Vous nous envoyez un petit message sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou un mail à Europe 1.
Vous avez dit Europe 1 en même temps que la voix des Europe 1.
C'est beau. Et moi j'ai dit les 5h12, Mathieu Noël.
Magnifique, vous écoutez Debout les copains, 2 heures pour tout savoir de l'actu sans jamais oublier d'en rire. À suivre. Votre point santé, ce matin le docteur Ichou nous parle d'un livre qui évoque l'importance du mental dans la guérison. Et puis vendredi les bons tuyaux, le rendez-vous incontournable des amateurs de culture et de nouvelles technologies. Au programme ce matin, nos coups de cœur bande dessinée pour gâter vos proches à l'approche du week-end. Et gâter vos proches à l'approche du week-end, c'est pas très heureux, mais enfin bon, de la poésie sur YouTube et 3 applis pour mieux dormir. J'en ajouterai personnellement une 4e, certainement la plus efficace pour trouver le sommeil. Ça s'appelle Tais-toi Mathieu. C'est une appli qui vous permet de réécouter toutes mes interventions les plus chiantes de la saison. Et là, franchement, si vous ne pioncez pas... Je me permets de préciser, puisque je ne fais pas que des blagues sur Jean-Michel Apathy, je renvoie, on pense ce qu'on veut de Michel Onfray, mais à une époque, il était prof, il l'est peut-être toujours d'ailleurs, il a écrit une contre-histoire de la philosophie qui est assez passionnante et intéressante sur cette notion de bonheur, et notamment sur la manière dont le christianisme a balayé les siècles, l'hédonisme effectivement, qui venait des pré-socratiques, et une philosophie très intéressante à redécouvrir avec Michel Onfray. Voilà, c'était mon petit message. Là, on a pris un peu de retard avec mes digressions philosophiques. Vous avez hâte, hein, bah, je vous comprends. Puis surtout, c'était très clair en plus. Hein.
Non, c'était clair.
Mais d'abord, place à la musique sur Europe 1. Et sur une idée des Baroque, voici tout de suite Marvin Gaye avec Eva.
What's going on?
Exactement.
There's too many of you crying. Brother, brother, brother. There's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love. Signs. Don't punish me, sister, with brutality, sister. Talk to me, sister, so you can see, sister. Oh, what's going on?
What's going on? C'était Marvin Gaye sur Europe 1.
Il est 5h16. Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
L'Union européenne accepte un court report de la date butoir du Brexit. Ça devait être le 29 mars. 2 solutions proposées par Bruxelles. Une sortie le 12 avril, si le Parlement britannique refuse une 3e fois l'accord négocié par la Première ministre Theresa May. Une sortie le 22 mai, si au contraire les parlementaires finissent par l'accepter. Le nouveau préfet de police de Paris doit présenter ce matin à Christophe Castaner le dispositif de maintien de l'ordre pour demain. 19e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Hier soir, le ministre de l'Intérieur a reçu les syndicats de policiers. Il leur a assuré qu'ils bénéficieraient demain d'une plus grande autonomie en intervention. Enfin, climat glacial entre l'Élysée et le Sénat, après qu'hier la Chambre haute a décidé de transmettre à la justice les cas de trois proches d'Emmanuel Macron dans le cadre de l'affaire Benalla. La majorité fâchée dénonce un procès politique. Édouard Philippe a boycotté la traditionnelle séance des questions du Sénat au gouvernement. Une première pour un Premier ministre depuis 1998.
Europe 1.
Voici pour les titres de ce 22 mars, ce qui ne nous dit en rien sur qui miser nos biftongs ce soir à Vincennes. Heureusement, je sens que Thierry Léger n'est pas loin et qu'il a deux, trois tuyaux à nous refiler. Bonjour Thierry.
Bonjour Mathieu, il y aura des courses ce soir à Vincennes et mon pari gagnant sera le 311 Comtesse du Clos. Volontairement ménagé l'hiver dernier après avoir réalisé une superbe saison 2018 en remportant 3 victoires et engrangé ainsi plus de 120 000 euros, cette jument en constant progrès est à nouveau prête à faire étalage de tout son talent. Sérieuse et capable d'adopter toutes les tactiques, elle sera pour la première fois associée à Johan Le Bourgeois, l'une des meilleures mains de Vincennes qui, n'en doutons pas, saura en tirer la quintessence. Alors notez bien, pour ce soir à Vincennes, réunion 1 dans la troisième course, le numéro 11, Comtesse du Clos.
Merci Thierry Léger.
Il est 5h18.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, et à l'heure d'ouvrir cette séquence propice à toutes les confidences, où l'équipe de DLC se retrouve autour de la table du petit déjeuner, quelle surprise ce matin de découvrir, en arrivant au salon, qu'Eva Rock avait dressé un quatrième couvert. En plus du traditionnel Nutella de Gégé, pastéis de nata de Céline et des cracottes bioéquitables sans gluten d'Eva, il y avait, en outre, toutes les gammes de sauces Old El Paso, du guacamole classique au chili muy picante. Et soudain, on l'a vu arriver. Intégralement nu, cachant seulement son intimité avec un grand sombrero, on lui a dit bonjour, il nous a répondu alors que j'étais à dodo d'appeler les keufs, Céline l'a reconnu.
Don Chibro.
Ben oui. Hola, que tal, s'exclama alors Don Chibro, l'amant mexicain d'Eva Rock, en caressant sa moustache. La sienne, pas celle d'Eva. Visiblement, il ne s'était pas gêné, et il n'était pas gêné d'évoluer son vêtement, nous un peu. Surtout quand, alors qu'il se baissa pour ramasser une tartine, Céline n'a pu s'empêcher de jeter un œil et de découvrir sa petite particularité.
Oh, mais alors qu'est-ce que c'est ? Oh, une boule !
Détail anatomique dont on se fait passer. La prochaine fois, Chibro, passez un slip. Passamos un slipo, comme on dit chez vous. Nous, on passe au pressing.
Alors, je ne savais pas compter, hein.
C'est-à-dire ?
Bah, vous dites que j'ai rajouté un quatrième couvert, alors qu'on est déjà exclu de la colocation.
C'est pas faux, Eva. Il est très tôt quand j'écris toutes ces conneries.
Donc je vous demande
un tout petit peu d'indulgence. Un poquito di indulgencia, por favor. Nous passons au pressing, notre revue de presse en mode zapping. Et c'est marrant que dans toute cette litanie, c'est la seule chose qui vous est choquée. C'est vraiment ça qui est étonnant.
Non, parce que tout le reste est vrai.
Oui, voilà, la revue de presse en mode zapping. Parmi toutes les unes de vos quotidiens ce matin, on retiendra celle de Libération qui titre le SOS des pompiers. Le commandant de la brigade de Paris décrit une profession fragilisée car sursollicitée et de plus en plus agressée. Sud-Ouest revient sur une production agricole qui a été multipliée par 5 en 10 ans, la production du soja sans OGM, pas facile. Quant à l'Opinion et le Parisien, ils ont choisi d'évoquer l'affaire Benalla qui accroît l'opposition entre le Sénat et le gouvernement. Nous y reviendrons avec Mickaël Darmon à 7h moins le quart. Mais vous, mes sympathiques gougnafiers, qu'avez-vous trouvé dans la presse ce matin ? Eva Rock.
Combien de cartes vous avez dans votre portefeuille ? Vous savez, carte de crédit, carte de transport, d'accès au bureau, pour aller dans la salle de sport, tout ça.
Beaucoup trop.
C'est beaucoup. Hein. Et si on se débarrassait de tout ça ? Il y a des milliers de Suédois qui ont franchi le pas en se faisant implanter dans la main une puce.
Alors,
l'opération, quelques secondes au cours desquelles un pierceur professionnel, on appelle ça comme ça, vous pince la peau et vous glisse par piqûre la puce sous la peau, coûte 170 euros. Alors, je passe sur le passage de l'article trouvé dans le magazine Week-end des Échos où le journaliste raconte que le pierceur doit s'y reprendre à plusieurs reprises pour implanter la technologie. Mais voilà, ils sont allés recueillir surtout beaucoup de témoignages comme Madeleine qui se félicite d'avoir accepté cette puce. J'ouvre toutes les portes du bâtiment, j'entre à mon club de gym et je peux transmettre mon profil LinkedIn aux gens que je rencontre.
Tu peux surtout te faire pirater. Alors, tu te fais pirater ton corps.
On va y arriver. Parmi les possibilités offertes par cette chip, comme on dit, le stockage des billets de train, figurez-vous.
Chip, c'était une bonne série, ça. Vous vous souvenez ?
Mais ça n'a rien à voir.
Non, ça n'a rien à voir, mais ça me rappelle des beaux souvenirs.
Ouais. Je peux continuer Poncharello. Ou pas ?
Oui, bon, allez-y.
C'est pas grave. 3000 usagers de la SNCF suédoise ont choisi cette méthode de la puce. Ils stockent leurs billets de train sur cette puce en question. Alors, une autre utilisatrice, elle a fait graver ses coordonnées, son type sanguin et son accord pour un don d'organes.
Ça, c'est intéressant.
Voilà, au cas où elle aurait un accident. Anes, c'est un Suédois implanté aussi. Il travaille sur les capacités de paiement via la puce. Alors, c'est pas encore très développé, mais il peut déjà s'acheter une boisson au distributeur.
Attends, déjà que parfois, enfin, si suffit. On met le paiement sans contact, déjà parfois on peut payer sans le vouloir. Si, oui. si on est trop proche de la petite borne, alors là, avec la main, si on pose la main, on est là, on parle avec le vendeur. Imaginez, vous êtes chez Aston Martin.
Oui.
Vous parlez avec le vendeur, vous posez la main négligemment avec un plan. Vous achetez une DB11 à 176 000. Qu'est-ce que vous faites le lendemain? Comment vous expliquez ça?
Déjà, ça veut dire que vous avez 176 000 sur votre compte.
Ça veut rien dire. Ça veut dire que vous.
Oui, non, mais il y a refus bancaire.
Ah,
Plus sérieusement, il faut vraiment être très proche du scan en fait pour que ça marche.
C'est déjà en vigueur, ça.
C'est déjà en vigueur. Donc lui, par exemple, il a acheté sa boisson au distributeur, il a juste passé sa main devant le scan et hop, 2,90€ qui était déjà déduit de son compte. Lui, il rêve d'ailleurs à d'autres développements après les paiements. Il dit la santé est un autre axe encore plus prometteur. Imaginez des puces qui puissent mesurer des valeurs comme la température, niveau de sucre, les carences en vitamines, la qualité de sommeil. D'ailleurs, il a une montre connectée à son poignet.
Voilà. Une montre connectée qui
exactement.
Fait déjà ça.
Et comme vous le disiez, il y a quand même le problème des sécurités de données.
Un risque.
Eh bien, eux, en tout cas, pour les Suédois interviewés dans cet article, ils disent que les smartphones contiennent beaucoup plus de données que les puces implantées. Donc, il n'y a pas franchement de nature à s'inquiéter.
C'est tout simplement le futur, probablement. Il faut l'accepter.
Mais je vois bien avec un petit implant.
Flippant quand même.
Oui, un petit implant. Alors, Céline Dacosta.
Il faut retenir quand même que la canette en Suède coûte 2,90€.
Oui, 30 couronnes.
Ah, oui, c'est
quand même. Ouais. Bon. Moi, je vais vous parler des Bleus qui jouent ce soir pour le premier tour de qualification des éliminatoires de l'Euro contre la
Moldavie.
Dans Le Parisien, Raphaël Varane s'exprime. Il le fait rarement. C'est un de ces jeunes joueurs. Il a 25 ans, qui est discret, qui ne défraie pas la chronique et qui essaie, dixit l'intéressé, de transmettre de la sérénité et de la motivation à ses coéquipiers. Toute cette sagesse à 25 ans. Avec Paul Pogba dans le vestiaire, on les surnomme l'eau et le feu. Je vous laisse deviner qui est qui. Mmh. On apprend que jusqu'à l'âge de 15 ans, il joue au foot pour le plaisir sans penser à devenir professionnel un jour.
Ah bon?
Ouais.
Varane.
C'est fou. Ouais.
15 ans, c'est tard.
Hein. Ouais, il joue à Lens.
Il jouait pour le plaisir, mais au niveau.
Il pensait pas devenir un professionnel. Ah bon. Il nous dit aussi tout le bien qu'il pense de Kylian Mbappé, d'Antoine Griezmann ou encore de son coach au Real de Madrid, hein, qui est revenu, Zizou, duquel il s'inspire lorsqu'il parle à ses partenaires de jeu dans le vestiaire. Il dit qu'il n'y a pas besoin de crier. Comme Zizou, force tranquille, la chaussette gauche, tout ça. Article qui me donne l'occasion de vous parler du match de ce soir et plus particulièrement du pays contre lequel on joue, la Moldavie. Un pays qui se situe entre la Roumanie et l'Ukraine et où il fera aujourd'hui 16 degrés au plus chaud de la journée. Je me suis renseignée. Alors que savez-vous de la Moldavie et de son équipe nationale? Attention, quiz. Merci.
Vous êtes heureuse quand vous pouvez mettre des petits effets comme ça.
Alors comment s'appelle la capitale de la Moldavie?
Ça, moi je sais, mais parce que...
Vous savez tout, de toute façon.
Chisinau.
Oh bien.
Ah oui. Joli.
Je l'aurais mal dit, moi j'aurais dit Chisinau, mais bon. Ils sont combien au classement FIFA? Vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'avez pas le droit de jouer.
Il m'écoute bien.
La France est combien?
Deuxième.
Oui, c'est
comment
bien.
Comment sont les deuxièmes? Ah, c'est un scandale.
La Belgique est première.
Ouais,
et le Brésil, troisième. On est entre la Belgique et le Brésil, c'est fou. Attention, plusieurs propositions. Qui est Alexandru Spiridon? Ne réponds pas si on sait. Le jardinier, attention, le jardinier qui prépare le terrain là-bas en Moldavie. Le mec qui a découvert la spiruline, cette algue utilisée comme complément alimentaire, dont le docteur Ichou nous dirait ça ne sert à rien. Ou encore l'entraîneur de l'équipe moldave.
L'entraîneur.
Au hasard. Bravo.
Ouais. Bien joué. Mais il faut dire que c'est aussi le jardinier.
Oui.
Il a une double fonction.
Oh, c'est moche comme vanne, ça.
Oh, oui, c'est vrai, c'est vache. Pardon.
Et puis,
autant pour moi, j'embrasse nos amis moldaves qui nous écoutent.
Comment s'appelle le stade dans lequel on joue ce soir?
Alors,
je l'ai dit tout à l'heure.
10 000 places. Oui. Alors, moi, je dirais Zimbrou, évidemment, parce que j'étais pas en Moldave. 10 000 places, il est complet depuis longtemps. On nous assure que l'ambiance sera infernale. On vérifiera ça à l'antenne, j'imagine, avec les ambiances de stade non truquées de Jérôme.
Évidemment. Merci, Céline. Jérôme, justement.
Oui, vous le disiez à 4h, lors de notre bonjour, à 4h57. Aujourd'hui, c'est la journée nationale du sommeil. Alors, Le Parisien, aujourd'hui en France, dévoile les résultats d'une étude sur les ronflements menés par le spécialiste français de la santé connectée Withings, qui a collecté les données de plus de 25 000 dormeurs grâce à un capteur justement nommé Sleep, avec deux E, sinon avec un I ça veut rien dire. Bon, bref. Alors, il y a des résultats sur ça.
Ça me fait penser à toi, Chibro.
Vous vous lâchez complètement le vendredi. Hein. Alors, vous devenez aussi fou que moi.
Dans l'étude, il y a des résultats surprenants, d'autres moins. Je commence par le moins surprenant. D'abord, plus on est de forte corpulence, plus on ronfle. C'est physiologique, la graisse vient comprimer les voies aériennes. Parmi les ronfleurs, seuls 30% se situent dans ce qu'on appelle la norme pondérale. Les gros ronfleurs sont plus nombreux à la campagne qu'à la ville. Pourquoi? Alors, il y a les différences d'âge, parce que les citadins sont souvent plus jeunes et on ronfle plus quand on est vieux, c'est ce qu'écrit Le Parisien. Puis il y a aussi à la campagne, parfois, les allergies qui peuvent favoriser les difficultés respiratoires et donc le ronflement. L'étude nous éclaire aussi sur, nous fournit en fait une carte géographique du ronflement. Qui sont, à votre avis, les plus gros ronfleurs du monde?
C'est
ville capitale en Europe. Jules César.
Les plus à Rome.
Les Romains. Ce serait. Il fallait que je donne un gros indice, on est pressé. J'ai cherché un gros indice, on est pressé. Les Romains seraient les plus gros ronfleurs. Score moyen, 10 minutes par heure. Alors, difficile de
trouver. Ça, c'est lié au Chianti quand vous vous mettez pas mal de Chianti juste avant d'aller dormir, forcément.
Il y a un docteur qui témoigne dans Le Parisien, c'est peut-être un petit peu plus sûr, je sais pas. Ce sont peut-être.
Le docteur Marcelo Ichou.
Des caractéristiques physiologiques, dit ce docteur, comme la taille du pharynx, par exemple. Alors, on finit par le plus surprenant et ça bat en brèche une idée reçue. Les femmes aussi peuvent être de grosses ronfleuses.
Oui.
Nous, on en a la preuve ici, avec cet enregistrement authentique des baroques.
C'est un membre
de l'équipe que je ne nommerai pas.
C'est vrai que
j'adore et que j'embrasse. Ça va, Sébastien ?
L'étude nous dit que les trois quarts des hommes sont des ronfleurs contre un quart des femmes, mais c'est la faute à la pomme d'Adam, hein, s'il vous plaît, de l'étroitesse du pharynx, on n'y est pour rien. Mais les différences s'estompent avec l'âge. À 25 ans, les hommes ronflent deux fois plus, mais à 75, eh ben, la majorité des ronfleurs sont des ronfleuses, 7 minutes par heure contre 6.
Ah, ça c'est infernal.
Merci Jérôme, merci à tous les amis, le pressing referme ses portes. Eva, beau week-end en perspective, hein, il paraît qu'entre un buffet Ikea et Don Chibro, vous avez fort à faire.
Il faut que je le monte.
Lequel des deux? Passons.
Europe 1. Il est 5h28, Mathieu Noël.
Debout les copains, continuez avec la météo et le journal d'Hélène Zélani. Prodigieux réveil à l'écoute d'Europe.
Il est 5h28, Mathieu Noël.
Céline Dacosta, nous sommes le 22 mars, ouais. Deux jours après l'arrivée officielle du printemps et il fait de plus en plus beau.
Oui, le soleil sera vraiment bien présent aujourd'hui et pour tout le monde. Petit bémol, c'est vrai, près des côtes de la Manche, avec un ciel encore couvert ce matin sur la pointe bretonne, celle du Cotentin. Débrouillard plus ou moins dense entre les Pays de la Loire et les Hauts-de-France en passant par la région parisienne, à Trappes, à Pontoise ou encore à l'aéroport Charles de Gaulle Étoile. La visibilité est vraiment réduite en ce moment. C'est le cas aussi à Beauvais ou du côté de Chartres, alors prudence sur les routes. Ces brouillards vont se dissiper. La grisaille se morceler et laisser passer de larges éclaircies. Ça restera juste un brin couvert sur les côtes de la Manche cet après-midi.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui dévale la piste de l'actu tel Marcel Hirscher slalomant entre l'info et le rire. À suivre, des idées cadeaux futés sans se ruiner pour le week-end, une chaîne YouTube qui réinvente la poésie et trois applis pour venir à bout de l'insomnie. C'est le programme de Vendredi les bons tuyaux, notre rubrique culture et nouvelles technologies. Sans oublier votre consultation quotidienne avec le docteur Ichou qui a lu pour nous un livre passionnant évoquant le pouvoir du mental dans la guérison. Marcel Ichou, à qui on souhaite bonne chance puisqu'il a enfin tenté la sienne avec Eva Rock, invitant sa collègue à prendre un pot ce soir à la sortie du bureau. Comment se profile ce rencard, Eva ?
Je pense que je n'y arriverai pas.
Bon, après quelques verres.
Mais bien sûr, chauffe Marcel !
Bienvenue à tous sur Europe 1, il est 5h30. Mathieu Noël.
Les infos de ce 22 mars 2019. Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Hélène.
19e samedi de mobilisation, notamment à Paris, Christophe Castaner a rencontré les syndicats de policiers pour les rassurer. L'affaire Benalla jette un franc entre l'Élysée et le Sénat. La justice est saisie sur les cas d'Alexandre Benalla et de trois collaborateurs d'Emmanuel Macron. Et puis Moldavie-France, c'est l'affiche du match qui se joue ce soir dans le cadre de la campagne de qualification pour l'Euro 2020. On va y revenir dans le journal des sports. L'enjeu est de taille. Demain, c'est donc la 19e journée de mobilisation des Gilets jaunes, avec de nouvelles craintes de débordement. Le nouveau préfet de Paris présente ce matin le dispositif de maintien de l'ordre au ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui recevait hier soir les syndicats de police, notamment pour les rassurer sur les missions précises des militaires de l'opération Sentinelle. Écoutez David Lebar, secrétaire général du principal syndicat de commissaires.
On a été rassurés sur le fait que, évidemment, les militaires ne sont pas engagés en premier rang sur le maintien de l'ordre, mais qui seront en appui sur du bâtimentaire et dans des périmètres sanctuarisés. Donc il y a pour nous plus de sujets sur l'engagement des militaires parce que ça posait une véritable question. Sur le reste, on a eu confirmation des annonces dans la presse. La plus importante étant de déconcentrer le niveau de décision pour permettre aux forces de l'ordre d'être plus réactifs. Et ça, c'est la décision la plus importante. Ça veut dire concrètement qu'il y a un chef à Paris, si on prend cet exemple-là, c'est le préfet de police, mais il y a également la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, c'est quand vous avez un escadron ou une CRS qui est pris à partie, qui est agressé, ou à l'inverse, qui assiste à une dégradation majeure type l'incendie d'un immeuble, il faut donner de la confiance au chef du dispositif opérationnel pour agir. Tout sera peut-être pas parfait samedi, mais les Français se rappellent d'une chose, le 8 décembre dernier, ils ont vu la police et la gendarmerie à l'action, et on peut mieux comprendre le bilan quand il y a des dommages. Si on voit quand même que les forces de l'ordre peuvent agir. Ce qui a été déplorable samedi dernier, c'est d'avoir cette sensation que les choses se sont faites sans que les forces de l'ordre puissent agir.
Le secrétaire général du principal syndicat de commissaires au micro européen d'Alain Accaud. En revanche, il n'est pas question ce week-end que les policiers puissent utiliser des drones ou encore projeter sur les casseurs des produits marquants, peinture ou ADN. Éventualité évoquée par Édouard Philippe en début de semaine. La loi santé en discussion à l'Assemblée, des amendements ont été votés pour permettre aux pharmaciens de prescrire directement certains vaccins, histoire de faciliter le parcours de soins des patients. Les sages-femmes pourront également prescrire et pratiquer des vaccinations dans certaines conditions. Europe 1, il est 5h32.
La guerre est déclarée entre le Sénat et le gouvernement.
Le Sénat qui a décidé hier de saisir la justice sur les cas d'Alexandre Benalla et de trois collaborateurs d'Emmanuel Macron. Tribunal politique, dénonce Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. Le Premier ministre Édouard Philippe est allé jusqu'à bouder les questions au gouvernement. Et pourtant, Adrien Beck, les sénateurs n'ont pas l'intention de se laisser impressionner.
Ils veulent nous cogner, mais on va tenir le coup. Ce poids lourd du Sénat ne décolère pas entre l'absence assumée d'Édouard Philippe devant les sénateurs hier après-midi. Les accusations de procès, de tribunal politique. Le gouvernement piétine la séparation des pouvoirs, s'emporte un sénateur. L'occasion d'un coup de pression sur l'exécutif alors que s'annonce une réforme institutionnelle. L'élu socialiste Patrick Kanner.
Si la réforme souhaitée par le président, c'est l'affaiblissement du Sénat, voire même son effacement, et la rupture de l'équilibre des pouvoirs entre les deux chambres, eh bien là, nous changeons de régime et le Sénat prendra ses responsabilités.
Alors avec cet épisode, Emmanuel Macron aura du mal à s'attaquer au Sénat, veulent croire plusieurs élus. Qu'il n'essaie pas de se venger, ce serait mettre une allumette dans de la nitroglycérine, avertit un président de groupe. Sauf si le chef de l'État choisit finalement de faire passer sa réforme par référendum en contournant les assemblées. On a vu que le Sénat n'était pas tenu, persifle un élu En Marche. Ça pourrait être une bonne idée.
Adrien Beck.
Comment sortir de l'impasse sur le Brexit ? L'Union européenne accorde deux options au Royaume-Uni.
Oui, soit les députés britanniques approuvent l'accord de divorce la semaine prochaine. La date du Brexit sera alors reportée au 22 mai. Soit ils le rejettent pour la troisième fois. Londres aura alors jusqu'au 12 avril pour décider d'organiser des élections européennes, ce qui lui permettra de demander un nouveau report. Deux minutes de silence dans toute la Nouvelle-Zélande. Hommage national aux 50 victimes de l'attentat dans deux mosquées il y a une semaine. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans la ville de Christchurch. Et dans tout le pays, de nombreuses femmes ont porté le foulard pour marquer leur solidarité avec la communauté musulmane. Et puis Boeing va modifier ses 737 MAX, appareil qui s'est écrasé en Éthiopie faisant 157 morts. Ils seront désormais équipés d'un signal d'alerte lumineux pour avertir de tout dysfonctionnement du système anti-décrochage, une fonction jusqu'ici optionnelle. Et puis on apprend que ce matin, la compagnie aérienne indonésienne Garuda annule une commande de 49 Boeing 737 MAX, et cela pour une valeur de près de 5 milliards de dollars.
Merci beaucoup, c'était le journal d'Hélène Zellani. Hélène, que plus personne dans la rédaction ne regarde désormais de la même façon depuis qu'on sait sa passion pour le rap et notamment NTM.
Suffit.
Mais les Jones ne sont pas au bout de leur surprise, car MC Zellani, c'est aussi une passion pour l'électro. Passion qui a fait l'objet d'un échange très moderne entre elle et Nico ce mercredi.
J'adore la techno.
Mais faut qu'on aille en soirée, toi et moi.
Faut qu'on fasse ça, mais vendredi en 8 alors. Hein. Allez, on passe au journal des sports de Jérôme Lacroix. À la une, Jérôme, les forces en présence.
On n'attend pas de bouleversement dans la composition de l'équipe de France de foot ce soir en Moldavie. C'est le premier des 10 matchs de qualification pour l'Euro l'année prochaine. Au coup d'envoi ce soir, on devrait retrouver Mbappé, Griezmann, Giroud, Kanté ou encore Loris, mais aussi Kingsley Coman. On vous le disait hier, l'attaquant du Bayern Munich est en forme. Et puis en défense, à gauche, il pourrait être titulaire Leivin Kurzawa du PSG, sans doute propulsé à ce poste parce que Lucas Digne, le pressenti, a été touché à une cuisse hier lors du dernier entraînement. Deux retouches pour un ensemble qui doit rester proche de la structure victorieuse du dernier mondial, parce que si la Moldavie reste une sélection modeste, elle doit être prise au sérieux, prévient l'ancien bleu Alain Roche, consultant européen.
N'oublions pas quand même que ce sont des matchs officiels, hein, donc c'est pas le moment de faire des essais. Mettre des, comme on dit, des sortes de pièces rapportées ou tenter des coups, c'est pas le moment, je trouve. Et en plus, ça peut amener peut-être un désordre, on ne sait jamais, parce qu'on connaît les joueurs sur le terrain, mais on ne les connaît pas dans la vie de groupe, et le côté social est très important.
Moldavie-France, coup d'envoi 20h45, des matchs de qualification d'hier soir. On retiendra le succès 3-1 des Belges sur les Russes, grâce notamment à un doublé d'Eden Hazard pour les Belges.
Le handball féminin et les Françaises ont fait respecter leur statut.
Les championnes d'Europe et championnes du monde en titre, elles ont battu hier soir à Clermont-Ferrand les Roumaines 28-18 pour une rencontre de Golden Golden League. C'est un mini championnat amical que les Françaises disputent avec également le Danemark et la Norvège. Ces deux sélections qu'elles affrontent samedi et dimanche à Boulazac, près de Périgueux. Et plus loin de côté garçon, en championnat de France, le PSG plus que jamais grand favori pour un cinquième titre consécutif de champion après hier. Un large succès, 30-21 à Chambéry, le PSG est premier de la D1 avec 6 points d'avance sur Montpellier à seulement 8 journées de la fin.
Une personnalité du jour, tout en jaune.
Comme la couleur du leader du Tour de France cycliste J-100 avant le départ du prochain depuis la Belgique, la dernière étape partira, elle, de Rambouillet dans les Yvelines. Et pour marquer le coup, à partir de ce soir et jusqu'au mois de juillet, le château de la ville sera éclairé en jaune. Les explications de Marc Robert, le maire de la ville.
Puisque le départ se fera devant le château va être éclairé en jaune pour aller jusqu'au 100 jours et donc jusqu'au 28 juillet. Et ça va être un éclairage qui sera, je dirais, comme un cœur qui bat. C'est-à-dire qu'on aura effectivement cette attention et cette impatience pour aller jusqu'au 28 juillet. Voilà.
Des propos recueillis par Axel May.
Et non pas Axel Merckx. Ce qui aurait été plus logique pour un reportage sur le cyclisme. Bravo. Merci, c'était...
S'il s'appelait Merckx, il ne serait pas journaliste à Europe 1.
C'est vrai.
Oh, bah, pourquoi pas.
Pourquoi pas, c'est très bien, journaliste à Europe 1.
Qu'est-ce que vous avez contre
les journalistes? C'était un peu être le maillot jaune du journalisme d'être journaliste à Europe 1. Merci, moi, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Avant de nous quitter, Jérôme, allez, en duo avec Céline, 3 secondes de Queer Center.
Queer Center.
Queer Center.
Merci.
On sait pas qui est.
Europe 1.
Il est 5h38, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos, de francs éclats de rire et parfois aussi de cruelles désillusions comme hier.
Oh punaise, c'est vendredi. Ah non, c'est jeudi.
À suivre.
Oh
mince. Bah là, ça y est, aujourd'hui, vous pouvez le dire.
Oui, c'est vendredi.
À suivre votre point santé avec le docteur Ichou qui nous conseille ce matin un livre passionnant qui nous révèle l'importance du mental dans la guérison. Et puis, quelle BD offrir autour de vous ce week-end? Quelles applis télécharger pour enfin mieux dormir? La réponse est dans Vendredi les bons tuyaux. Restez avec nous.
Il est 5h40, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, la preuve d'un goût certain, l'heure de faire un point sur la météo avec vous Céline, avec de la douceur aujourd'hui.
Oui, c'est vrai, hein. Encore plus qu'hier, puisqu'on est 5 à 6 degrés au-dessus des normales de saison cet après-midi. Une belle moyenne de 15 à 23 degrés du nord au sud, il en fera 15 à Brest, 17 à Lille, 18 à Paris, jusqu'à 23 degrés à Nîmes, le tout sous un soleil généreux. On a juste un petit bémol près des côtes de la Manche qui vont rester sous un ciel nuageux toute la journée, on aura quand même des éclaircies dans l'après-midi.
Eva Rock.
En 1923 naissait le mime Marceau. Donc, question surréaliste de ce matin.
Sachant qu'on fait de la radio.
Sachant qu'on fait de la radio.
Qui aurait eu sa légitimité en télé.
Oui, et encore. Encore, je ne suis pas sûre. Oui. Quel est le meilleur mime que vous arrivez à faire? Vous nous avez répondu sur Twitter avec le hashtag.
Je suis dans l'ascenseur.
Non, mais alors écoutez.
Ah, oh, l'ascenseur. Ouais, oh, l'ascenseur est bien fait. Très bien. Ouais,
l'ascenseur, elle le fait très bien. Mais alors, Gecko nous a envoyé un message très sympa. Il nous dit est-ce que vous vous souvenez du film de Mel Brooks, Silent Movie? C'était une comédie au cours de laquelle. C'est un film muet en fait, hein, une comédie muette. Il y avait un seul comédien qui disait un mot. D'après vous, quel était ce comédien? C'était en 1923.
Je n'en ai aucune idée.
Là. C'était le mime Marceau.
Ah,
et le mime Marceau disait un mot.
Dans le film drôle. De Mel Brooks, c'est le seul à dire un mot. Et c'est une excellente comédie que
le
je vous recommande.
Le contre-pied est amusant.
Mais oui, voilà. Vous continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
J'ai toujours rien compris à cette question. Merci beaucoup, Eva.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Un suppo et on lit. Le vendredi, vous le savez, c'est bibliothérapie. On évoque un livre sur la santé. Bonjour docteur Marcel Ichoux.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes venu ce matin avec un livre signé du docteur Ariel Toledano qui s'intitule « Réparer les corps et réparer le monde ». Pourquoi avez-vous choisi ce livre, docteur Ichoux?
Eh bien, pour nous donner un peu de hauteur dans ce monde de brut. Ariel Toledano est un médecin vasculaire, spécialiste de l'histoire et de la philosophie de la médecine. Au travers de ses connaissances, confronté à son expérience des patients, il nous livre une réflexion spirituelle sur la santé de l'individu dans son environnement. Il nous donne plus des pistes de questionnement sur nous-mêmes que des réponses toutes faites.
Et quels en sont les enseignements principaux alors qu'il en tire dans ce livre?
Alors, allons-y, interro-écrite. Réfléchir sur le sens que l'on veut donner à sa vie en levant la tête du guidon.
Oula, faites ça vaste question.
Sans arrêt, hein, on est d'accord. Selon Socrate, la pire ignorance est celle que l'on ignore. Elle conduit à l'illusion. Celui qui sait ce qu'il ne sait pas cherche à combler cette ignorance. Vous avez à peu près 2 heures là aussi pour réfléchir. Cultiver sa liberté et son libre arbitre, c'est dire que rien n'est inéluctable tant sur le plan physique que moral. Chercher à connaître, à se connaître, mais sans se préoccuper exclusivement de soi. Être optimiste, par efficacité, c'est-à-dire voir le verre à moitié plein, et se renouveler par la connaissance et la confrontation aux autres. C'est la base même de la vie en biologie, c'est avec le différent qu'on évolue. Sans différence, il n'y a pas de vie.
Merci beaucoup, Marcel Ichoux, professeur au Collège de France, nous a livré cette chronique philosophie et médecine. Dieu seul sait si lundi il ne va pas nous décrypter Schopenhauer ou Nietzsche. Nous verrons bien. Vive le docteur Ichoux, vive la France.
Europe 1. Il est 5h43, Mathieu Noël.
Vous écoutez.
Complètement taré, hein,
je vous en prie, Eva. Je vous en prie. Vous écoutez Debout les copains, deux heures où l'esprit rieur et potage de mes camarades Céline et Eva ne nuit en rien à la rigueur de l'info délivrée.
Faut le dire vite.
Pas du tout, oui. À suivre. Que vous cherchiez une BD pour votre petit cousin, une chaîne YouTube sur la poésie pour draguer votre collègue du marketing ou des applis pour enfin réussir à trouver le sommeil le soir et cesser de perdre 3 heures à tourner dans votre lit.
Bon, après quelques verres.
Mais parfois ça ne suffit pas, Céline, parfois ça ne suffit pas. Bref, pour de vrais conseils utiles, vendredi les bons tuyaux arrivent, mais d'abord, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse musicale avec Ava Max, Sweet But Psycho sur Europe. C'était Ava Max qui nous interprétait ce titre inspiré de la vie des Varocs, Sweet But Psycho, à savoir sympa mais taré sur Europe.
Il est 5h46. Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
Climat glacial entre l'Élysée et le Sénat. Après qu'hier, la Chambre haute a décidé de transmettre à la justice les cas de trois proches d'Emmanuel Macron dans le cadre de l'affaire Benalla. La majorité fâchée dénonce un procès politique. Édouard Philippe a boycotté la traditionnelle séance des questions du Sénat au gouvernement. Une première pour un Premier ministre depuis 1998. Les députés ont autorisé cette nuit les pharmaciens à délivrer, sous certaines conditions, des médicaments sans ordonnance pour des pathologies bénignes comme les cystites ou certaines angines. Enfin, les Bleus du foot entament ce soir la campagne de qualification pour l'Euro 2020. Premier rendez-vous en Moldavie, 170e nation du foot mondial. Coup d'envoi, 20h45.
Europe 1.
Voici pour l'essentiel de l'actu de ce 22 mars. Et à l'heure d'ouvrir la séquence des pronostics hippiques, je tiens d'abord à féliciter celui qui a été désigné par ses pairs comme le meilleur spécialiste hippique de France. Il a remporté la prestigieuse Cravache d'or. Une remise des prix placée sous le signe de l'émotion.
Merci pour tout. Merci pour tout.
Bravo, bonjour José Covès.
Oui, bonjour, ah, fais-moi mal cette cravache. Nous sommes à Vincennes, 20h15, départ de la troisième course, support du Quintet Plus sur les 2850 mètres de la petite piste. Cinq juments ont des arguments à faire valoir. D'abord, le 10 Costa au Fort, face à elle, face surtout à une telle opposition, sa chance est de premier ordre. Avec 25 mètres d'avantage, Cool Star, le 14 trouve un engagement en or. Le 8 Crest 110 enchaîne les bonnes performances, c'est la valeur sûre. Croisette, le 4, est en super forme, elle visera plutôt une petite place. Quant au 14, Coralcy, c'est la course visée de longue date. En cas de défaillance, le 9, Caline de Fleur, elle compte deux succès sur ce tracé. Enfin, le 3, Carina de Porouette, surtout courageuse. Et le 6, Bambina Fortuna, surtout drivée par le sud qui dort, Jean-Michel Bazir. Mon ticket pour cette troisième course vers 20h15, d'abord le 10, le 7, le 8, le 4 et le 14. Et l'on ajoute le 9, le 3 et le 6.
Enfin José, j'ai l'impression qu'il vaut mieux jouer la valeur sûre. Hein. Crest 110, le 8.
Ah, il faut mieux en effet, puisqu'elle reste sur une sacrée série. Elle a fini première ou deuxième lors de ses cinq dernières sorties. C'est une véritable rente. Mathieu, Crest 110, c'est mieux que le livret A.
Oh, parfait. Moi qui ai toujours rêvé d'être entier, je mise là-dessus. Merci, José.
Et les 5h48.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez le 5-7 d'Europe 1. Debout les copains, continue avec notre page culture et nouvelles technologies. Voici vendredi les bons tuyaux. Eva Rock pour les écrans, Clément Le Saffre pour les nouvelles technologies au service de notre quotidien. Un jeune pouce du journalisme qui n'est malgré tout pas né de la dernière pluie, sa réactivité et sa jugeote, souvent mise au défi, ont déjà marqué les esprits. Merci à toute l'équipe de Mardi les bons tuyaux qui se reformera demain, Clément, dans...
Mercredi, les bons tuyaux.
Oh, génial! Bravo! Bravo!
Clément, ce matin, vous nous donnerez trois applis pour nous aider à mieux dormir. Activité dans laquelle vous avez une certaine expertise, on peut vous faire confiance. Mais d'abord, place à celui qui, dans un mail à l'ensemble de ses collaborateurs, a souhaité qu'on l'appelle désormais Monsieur, le vice-chef adjoint délégué du service culture. Mais bon, en fait...
On l'appelle Chacha dans le service.
Bonjour Mathieu Charrier.
C'est vrai, aucune crédibilité. Bonjour à tous.
Mathieu, ce matin, comme chaque vendredi, c'est la tradition, vous nous parlez bande dessinée. Premier choix, Mathieu, une BD au titre évocateur, Les bijoux de la Kardashian.
Oui, vous vous rappelez les grands titres le 3 octobre 2016. Kim Kardashian, vedette de la télé-réalité, femme de Kanye West, braquée à Paris séquestré dans la chambre de son hôtel parisien. Préjudice estimé 9 millions d'euros. C'est tout simplement le vol le plus important visant un particulier depuis 20 ans en France. Et on va donc tout revivre dans cette BD dont le scénario est signé par deux journalistes, Julien Dumont et François Vignol. On y découvre, redécouvre les circonstances du vol, mais aussi comment nos trois braqueurs, dont un papy au cœur fragile, se sont organisés. Faut savoir, moi, je m'en rappelais pas. Non, c'est vrai.
Le papy au cœur fragile.
Oui,
c'est vrai. Et ce qui est vrai aussi, c'est qu'ils sont venus jusqu'à l'hôtel où logeait la star.
À vélo.
Sont repartis aussi avec le même moyen de locomotion. C'est marrant aussi de voir comment la police à ce moment-là avait des moyens illimités pour cette enquête. Contrairement aux autres, les policiers en rigolent bien. Il faut dire que le dossier Kardashian était très sensible. Alors après, le dessin est pas magnifique, mais c'est une bonne BD polar si vous aimez le genre et surtout si vous aimez l'actualité. Kim Kardashian d'ailleurs, qui découvre-t-on à la fin, a fait savoir qu'elle avait été épatée par le travail de la police française. Et oui, les bijoux de la Kardashian.
C'est sûr. On a mis 3 millions sur le dossier pour résoudre l'affaire, comme sur n'importe quel vol de vélo. Hein.
Mais on a réussi. Ouais. Les bijoux de la Kardashian chez Glénat.
Autre BD qui vient de sortir et que vous nous conseillez, Mathieu, c'est Fables amères, signé Chabouté.
Oui, quel est un de mes auteurs de BD préférés, Mathieu, si vous voulez un jour m'offrir une planche originale. Alors le livre s'appelle...
Écoutez, je note.
Effectivement, Fables amères, et en sous-titre, Détails futiles. C'est en fait, c'est une suite de petites histoires. Alors il y a celle du skinhead qui revient d'un rassemblement politique, qui marche le long de la route, il pleut, il fait du stop, une voiture s'arrête, la porte s'ouvre au volant. Un maghrébin va-t-il monter ? Tout est la question. Il y a aussi l'histoire de cet homme qui prépare l'ascension, vous savez, des montagnes au Népal. Alors il est à fond dedans, il saoule ses amis avec son défi, mais il pèse contre la gardienne lorsqu'il arrive en bas de chez lui et que l'ascenseur est encore en panne. Enfin, il y a le parallèle entre cet aveugle et sa petite canne blanche qui parvient parfaitement, lui, à dompter les obstacles urbains, et ce jeune, les yeux rivés sur son portable, qui se mange un arbre. Voilà, il y a 11 histoires courtes, malines, et le dessin de Chabouté qui est toujours magnifique en noir et blanc. Donc allez-y, lancez-vous dans l'œuvre de Chabouté. Là, ça s'appelle Fables amères, c'est publié chez Vendôme. D'Ouest. Vous pouvez aussi lire ou relire tous ses autres albums, notamment deux qui sont formidables, qui s'appellent Tout Seul ou Terre Nevas.
Mathieu, vous savez quoi ?
Envie.
Non, vous m'avez encore donné envie.
Ah là 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 là
et vous me donnez à chaque fois envie.
Ah, c'est formidable.
Ça commence à devenir troublant.
Voilà, une phrase que je ne prononcerai pas moi, parce que évidemment.
Nous passons aux nouvelles technologies, au numérique. Maintenant, avec vous, Clément Le Saff, c'est aujourd'hui la journée mondiale du sommeil et vous nous présentez trois applis, justement, pour nous aider à mieux dormir.
Ouais, et on va faire les choses dans l'ordre. On commence avec MyNoise. MyNoise. C'est une appli qui diffuse des sons relaxants pour aider justement à s'endormir.
Ah,
on retrouve alors tous les classiques, hein, les sons de la forêt, le ressac des vagues
sur la
plage, le bruit de la pluie sur le toit ou encore le vent qui fait tinter les cloches d'un temple. Alors c'est très apaisant, mais le vrai intérêt de MyNoise par rapport à toutes les applis classiques comme ça, c'est qu'on peut isoler et moduler des sons au sein d'une même ambiance. Par exemple, en forêt, vous pouvez mettre plus fort le chant d'un oiseau plutôt que d'un autre ou faire taire le vent dans les feuilles si vous voulez entendre les abeilles. Chacun trouvera son mix idéal. C'est vraiment idéal pour s'endormir.
Je sens déjà que je m'endors rien qu'en vous écoutant. Comment je fais pour passer une bonne nuit ?
Il y a plein d'applis pour aider à améliorer son sommeil. La plus complète s'appelle Sleep Better. Grâce au capteur de bruit et de mouvement de votre téléphone, elle analyse en fait vos cycles de sommeil et vous fournit des solutions pour mieux dormir. Alors on peut aussi l'aider, hein. Ça c'est intéressant en mentionnant si on a fait du sport avant de se coucher, si on est stressé en ce moment ou si on a mangé un peu tard avant de dormir.
Ou si on a mangé plutôt trois feuilles de salade ou un gros couscous.
Voilà. Exactement, on peut un peu moduler tout ça aussi. Donc c'est vraiment très précis, il y a des statistiques très complètes. Donc ça peut vraiment aider ceux qui dorment mal parce qu'il y a des solutions qui sont très pratiques pour justement améliorer son sommeil. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut que le téléphone soit placé un peu trop proche de soi, hein, que sur le matelas ou au moins sur la table de chevet pour qu'il puisse analyser tous les mouvements. Après, ça marche aussi en mode nuit pour justement ne pas être dérangé par des appels.
On avance, j'ai bien dormi, mais je ne veux pas tout gâcher avec un réveil trop brutal, Clément.
Ouais, c'est paradoxal, mais il vaut mieux parfois dormir 10 minutes de moins pour être un peu plus en forme. Alors avec l'appli Sleep Cycle, donc les cycles de sommeil, vous définissez en fait une plage horaire de réveil entre 10 minutes et 1h30. Elle vous écoute en fait pendant cette plage horaire, donc entre 7h et 7h30 ou entre 7h et 8h par exemple. Elle écoute votre respiration et elle détecte le meilleur moment pour vous tirer de vos rêves. Alors c'est très simple à utiliser.
Moi, si je ronfle, ça va pas la troubler.
Non, parce que justement, elle isole les ronflements pour les sortir en fait des bruits analysés. Donc, c'est vraiment très bien fait. Moi, je l'ai utilisé ce matin et je vous assure, ça marche. Et ça peut vraiment vous aider ceux qui sont comme moi, je l'avoue, pas du tout du matin.
On récapitule, Clément, pour nos auditeurs.
Alors voilà, pour bien dormir, trois applis. MyNoise pour s'endormir, Sleep Better pour améliorer son sommeil et Sleep Cycle pour se réveiller.
C'est gratuit, les trois ?
Les trois sont gratuites. Je les mettrai sur europe1.fr pour vous les
retrouver. Superbe chronique, très utile. Merci beaucoup, Clément.
Moi, j'en ai pas besoin, j'avoue.
Enfin, justement, Mathieu Charrier, à vos côtés.
Une haleine pas très fraîche.
Vous avez reconnu Eva Rock.
Oh,
Eva !
Mais jamais je pourrais dire une chose pareille.
Je sais, vous le pensez, mais vous le diriez
quel
pas.
Quel escroc.
Surtout que vous n'êtes même pas physiquement à côté d'Eva. Je profite du fait qu'on n'est pas filmé pour dire vraiment n'importe quoi.
Ah, c'est vrai.
Ma chère Eva, je vous aime.
Oui.
Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui ?
Eh bien, à l'occasion du Printemps des Poètes, je vous propose un peu de poésie. Bah, ça tombe bien.
Ça tombe bien.
René Char, par exemple.
Tu as bien fait de partir, Arthur Rimbaud. Tes 18 ans réfractaires à l'amitié, à la malveillance, à la sottise des poètes de Paris, ainsi qu'au ronronnement d'abeilles stériles, ta famille ardennaise un peu folle. Tu as bien fait de les éparpiller au vent du large.
Mathieu Charrier, est-ce que vous avez reconnu la voix de ce comédien?
Oui. Je le dis.
Oui, dites-le.
Grégory Montel.
Exactement. Tu as bien fait de partir,
Il
Arthur
Rimbaud.
Il n'est
pas le monsieur cinéma d'Europe 1
oui.
pour rien.
Il
faut dire à nos auditeurs qui connaissent notamment dans 10%.
Par, exactement, écrit par René Char et des mots interprétés par le comédien Grégory Montel, vu entre autres dans 10% où il incarne l'agent d'artiste Gabriel. Il est l'un des acteurs à avoir accepté de participer à ce format numérique qui est baptisé Poésie dans un monde de brut, qui est produit par Arte et qui est disponible gratuitement. C'est sur Facebook et sur YouTube. Alors il y a Maria de Medeiros qui a été la première à relever ce défi en déclamant un extrait de l'œuvre de Pessoa, toutes les lettres d'amour sont ridicules. Ils vont se succéder dans ces séquences de 2 minutes, Blanche Gardin, Alex Vizorek, Bertrand Belin et d'autres. Et du côté des mots, ce sont les signatures de Nabokov, Baudelaire, Houellebecq qui s'affichent au générique de ce programme qui est extrêmement simple dans le concept, mais qui est bien conçu et qui pousse surtout à relire des poèmes et à penser aussi la poésie autrement. C'est toujours extrêmement bien interprété. 15 épisodes réalisés par Paul Oison qui sont ainsi postés jusqu'au 17 juin et je vous les recommande chaudement. Et je suis désolée, mais c'est encore une production Arte, comme quoi.
Comme quoi. Bah oui, quand c'est bien, c'est bien, il faut le dire.
Oui, il faut le dire.
Tout simplement.
Poésie dans un monde de brut.
Merci beaucoup, Eva Rock. Merci à toute l'équipe des Bons Tuyaux qui se reformera lundi. Et Clément, vous êtes bien studieux quand même. Moi, à votre âge, enfin, ce que je veux dire, c'est j'espère quand même que vous profitez de vos 20 ans et que vous sortez avec des filles, que avec qui vous faites de petites choses.
Ouais, non, j'en fais pas. Enfin, j'en fais avec les mecs.
Europe 1. Il est 5h56, Mathieu Noël.
À suivre dans Debout les copains, votre météo avec Céline Dacosta et le journal de 6h de Céline Kalman.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.